Dissidence. Dissidence, l'émission politique tactique qui mène la danse. Ou alternatif, attaque, Valerio et Judy regardent ailleurs et autrement tous les samedis matins entre 11h et midi sur le 99.1. Dissidence rediff dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat. Dissidence.
Dissidence.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur HDR, le mix des cultures. Aujourd'hui, c'est l'équipe des alternatives qui anime l'émission Dissidence, avec un sujet qui, malheureusement, je dirais, toujours d'actualité, c'est la situation en Palestine. Nous avons choisi ce matin pour aborder ce sujet avec vous d'inviter Denis Siffer, rédacteur en chef de Politis. Denis, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Avant d'aborder la discussion avec Denis, il nous semblait malheureusement qu'il fallait revenir un petit peu sur l'actualité récente, puisque vous avez sans doute entendu qu'en 48 heures, c'est-à-dire ces deux derniers jours, il y avait eu près de 40 morts en Palestine. Et malheureusement, les réactions ont été extrêmement limitées, ce qui est aussi symptomatique de questions que pose ce conflit qu'on va essayer d'analyser. Donc, pour réfléchir à ces questions, nous avons ce matin autour des micros Thomas,
salut.
Daniel,
bonjour.
Rachel et moi-même,
bonjour.
Benoît, ainsi qu'à la platine, Malik, qui assure la technique, malheureusement pour la dernière semaine,
oh.
Mais on le retrouvera, c'est sûr, un jour.
Et...
L'actualité, à partir de ces 40 morts, dont on entend assez peu parler finalement, puisque 40 morts, c'est quand même un nombre assez impressionnant si on le compare à la faiblesse de l'écho politique que ça peut provoquer, en particulier si on le compare à l'écho qui est donné dans les médias à l'annonce d'une attaque imminente que serait sur le point de mener Israël dans la bande de Gaza, un peu comme on prépare une opinion à la guerre qui va arriver. Et le lien entre les deux est malheureusement assez fort, et il va falloir qu'on essaye d'analyser ça. On peut, pour commencer, avant d'essayer de comprendre la situation actuelle, il nous semble qu'il faut repartir sur quelques idées assez générales pour que on replace des idées centrales, mais qui sont la base de ce conflit.
Bah oui, à ce sujet-là, Denis, est-ce que tu peux juste nous faire un petit bilan sur ce qui se passe en Israël-Palestine ? Parce que grossièrement, si on en croit les médias, on est dans une série de représailles d'Israël qui se défend légitimement contre les attaques des méchants palestiniens.
Alors déjà, on peut contester le mot « représailles », qui est un mot en effet qu'on entend sans arrêt. Hein. C'est les représailles aux roquettes qui sont tirées depuis Gaza sur la ville israélienne de Sderot. C'est les représailles à l'attentat qui a eu lieu ou à l'attentat qui va avoir lieu, des activistes qui sont en train d'ourdir un complot, un attentat, etc. Des choses qui ne sont pas réalisées. Le mot « représailles » a comme fonction principale, à mon sens, de détourner la définition du conflit de sa nature réelle. La nature réelle de ce conflit, pour moi, c'est un conflit colonial. C'est-à-dire c'est un conflit sur dont l'enjeu est des territoires, des terres, avec une colonisation, des colons, une armée d'occupation. C'est-à-dire c'est tout de même les trois ingrédients, je dirais, de ce qu'on peut appeler un conflit colonial. Et l'enjeu, en particulier depuis 1967, pour les Palestiniens, c'est l'acquisition et la reconnaissance d'un territoire palestinien dans les frontières qui étaient celles de 1967, c'est-à-dire comprenant la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem Est, cela jusqu'au Jourdain.
Excuse-moi de t'interrompre, juste, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que 1967?
Alors 67, c'est la guerre des six jours, hein, c'est l'invasion, c'est une guerre qui a duré, comme son nom l'indique, six jours, à l'issue desquels l'armée israélienne a envahi la Cisjordanie, qui à l'époque était sous juridiction jordanienne et qui est restée officiellement sous juridiction jordanienne jusqu'en 1988. Mais en réalité, depuis de 67 à 88, c'était déjà Israël qui occupait, qui a occupé également donc Jérusalem Est, la partie arabe de Jérusalem, ainsi que Gaza, et une partie du Sinaï qui a été ensuite restituée par Israël, parce qu'il n'y avait là aucun enjeu économique ni même stratégique. Donc 67, c'est ça. Alors je dirais que 67, c'est à la fois le problème et la solution. C'est une année absolument charnière. Pourquoi est-ce le problème ? Parce que c'est effectivement l'invasion de toute l'ancienne Palestine mandataire, celle qui existait à l'époque coloniale, par Israël. Ça, c'est le problème. Et c'est l'invasion aussi et l'occupation de Jérusalem Est par Israël. C'est aussi en partie et en pointillé la solution, parce qu'avant 67, Palestiniens et Israéliens se disputaient le même territoire. À partir de 67, les Palestiniens ont pu progressivement, disons, admettre que Israël ne serait pas remis en cause et que par conséquent, la Palestine qu'il fallait revendiquer n'était plus la grande Palestine mandataire, mais celle qui se situe précisément au-delà des frontières de 67, celle qui avait été envahie par Israël en 67. Autrement dit, la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, j'y ajouterai le plateau du Golan, qui a été arraché militairement à la Syrie, et que la Syrie revendique aussi légitimement, dont la Syrie revendique le retour. Donc, pour être bien clair, quand je dis c'est à la fois le problème et la solution, c'est-à-dire que progressivement, à partir de 67, la partie palestinienne a commencé à admettre que sa revendication historique de reconquête de toute la Palestine mandataire, qui signifiait la destruction d'Israël, n'était plus réaliste, plus conforme à l'état du monde et au rapport de force, mais qu'il fallait, disons, se replier sur une revendication réaliste qui est celle d'une Palestine dans les territoires de Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem-Est. Voilà. Et c'est cela qui est l'enjeu du conflit actuel. Ce sont ces morceaux de territoire qui constituent l'enjeu c'est très important de le dire, parce que souvent on en fume un petit peu le débat, on en brouille, en laissant supposer que l'État palestinien, ce serait la destruction d'Israël, ce serait les Juifs à la mer, etc., etc. Non, depuis, en gros, officieusement, le milieu des années 70, où Arafat, qui était donc le leader historique des Palestiniens, a commencé à envoyer des émissaires pour rencontrer officieusement les Israéliens, à Paris d'abord et à Londres d'ailleurs, il y a eu des négociations où Arafat a admis, même s'il ne le disait pas encore publiquement, que ce serait ça la future Palestine. Et ça a été reconnu officiellement en novembre 1988 dans un Conseil national palestinien qui s'est déroulé à Alger, et où, pour la première fois, là, vraiment, explicitement, la partie palestinienne, c'est-à-dire l'Organisation pour la libération de la Palestine, l'OLP, a fait sienne la revendication d'une Palestine dans ces territoires de 67. Donc, soyons pas plus palestiniens que les Palestiniens, disons, c'est ça la revendication, c'est ça l'enjeu du conflit. Et c'est ça que Israël refuse aujourd'hui.
On est donc bien, ça c'est une idée importante, face à un conflit politique et non pas face à un conflit religieux, comme on essaye parfois de nous le présenter, même si c'est vrai que c'est ce qu'on considère comme la terre sainte pour trois religions. On est bien ici face à un conflit politique où un État occupe militairement un État voisin et remet donc en cause la base du droit international. Et ça, je crois que c'est une idée importante aussi, parce qu'on est dans un monde où on diffuse beaucoup directement ou indirectement l'idée du choc des civilisations. Et pour rappeler un peu à chacun d'entre nous, l'idée du choc des civilisations, c'est cette idéologie qui se développe à partir du début des années 90 aux États-Unis autour de l'idée que les conflits dans le monde n'ont pas des origines économiques, politiques, etc., mais des origines entre guillemets culturelles, où le monde serait divisé en deux blocs, d'un côté les musulmans et de l'autre l'Occident, pardon, les musulmans étant réduits ici à une espèce de culture figée qui aurait intrinsèquement une haine de l'Occident, de la liberté, de la démocratie. Et comme ce serait quelque chose d'intrinsèque, ben, on ne pourrait rien y faire, si ce n'est utiliser la force pour faire taire. Et donc, ce serait pas la peine de régler les conflits politiques, puisque de toute façon, ce serait pas des causes politiques, mais des causes pseudo-culturelles.
Ah, si les tenants de cette théorie ont pu tranquillement s'installer dessus quand, à la suite de toutes les séries d'attentats, et notamment 2001.
Alors justement, je voudrais juste un tout petit peu corriger sur le choc des civilisations, parce que Samuel Huntington, qui est le père de cette théorie, au début des années 90, qui a inspiré ensuite les néo-conservateurs américains et le clan Bush, il voyait 8 civilisations, donc pas simplement 2, hein, 8 civilisations, donc je vous passe l'énumération, mais pour finir, ça revient quand même un peu à ça, c'est-à-dire que c'est les musulmans qui constitueraient dans cette idéologie la grande menace pour les autres civilisations, et notamment, disons, le monde occidental judéo-chrétien. Donc, effectivement, ça amène à ça. Mais son idée, sa théorie était un peu plus sophistiquée que cela, quoi.
Donc là, en fait, les méchants palestiniens sont musulmans et les bons israéliens sont juifs. C'est ça, si on suit bien.
On peut dire, dans cette idéologie.
C'est ce qu'on essayerait de nous faire. C'est comme ça que c'est présenté dans les médias la plupart du temps.
Oui.
On fait jouer vraiment l'aspect religieux, alors que c'est pas celui-là.
Ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est un détournement de sens qui est récent, quand même. Hein. C'est-à-dire que le conflit, il existe depuis la fin du XIXe siècle. Hein. En gros, c'est-à-dire les premiers yishuv, les premières installations juives en Palestine. Il y a eu des révoltes arabes en 1936, très importantes, etc. Il y a eu évidemment l'énorme événement de la création d'Israël en mai 1948. Et puis il y a eu cette étape de 1967 que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est un conflit pour de la terre, c'est un conflit colonial. Depuis quelques années, et en particulier depuis les attentats du World Trade Center, donc de septembre 2001, effectivement, les Américains, disons plus exactement les néoconservateurs américains, l'entourage de Bush et les dirigeants israéliens, à l'époque Ariel Sharon, ont essayé de récupérer ces attentats pour essayer d'une certaine façon de recruter le monde entier, disons, à leur cause, en disant, vous voyez, finalement, nous, quand on se bat contre les Palestiniens, c'est pas du tout même un conflit pour des territoires, etc. C'est un conflit, c'est une guerre qu'on mène à votre compte aussi. Et le mur qu'on a hérissé, dressé en Cisjordanie, etc., c'est pas simplement pour nous, c'est aussi un mur pour endiguer une montée générale d'un islamisme violent, dangereux, fondamentaliste qui envahit les banlieues des villes occidentales aussi, etc. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de déterritorialiser le conflit et d'en faire un conflit idéologique et religieux et civilisationnel, alors que c'est pour la raison pour laquelle j'insiste beaucoup toujours sur l'essai de revenir au cœur du conflit, à sa raison d'être coloniale.
Mais c'est assez fascinant, là, ça, les origines du conflit, parce que, notamment, on répand beaucoup l'idée qu'Israël, la terre d'Israël a été, en quelque sorte, une compensation à la Shoah, alors que le sionisme remonte à bien avant. L'image du palestinien terroriste, elle continue à être colportée, alors que le terrorisme palestinien, c'est quelque chose de récent. Il y a une vraie confusion qui est entre retenu en permanence sur la forme réelle que peut avoir ce conflit-là. Et cette confusion-là, si on peut avancer un petit peu, elle est entretenue aussi au sujet de toute la situation politique de la Palestine, interne à la Palestine, et notamment ce dont on va parler après la pause musicale, ce qui se passe entre le Fatah et le Hamas aujourd'hui.
Alors, avant peut-être, parce qu'il y a plusieurs questions en une seule, donc je ne vais pas anticiper sur la suivante, mais dire un tout petit mot simplement de cette rencontre entre les idéologies et l'histoire. Hein. Le sionisme, évidemment, existe depuis bien avant Israël. C'est Theodor Herzl qui a créé le sionisme politique au tout début du XXe siècle. Avant lui, il y avait des sionistes déjà qui avaient cette théorie, mais qui étaient moins politisés et, disons, moins tournés vers sa concrétisation pratique. Herzl, il l'a pensé comme quelque chose qui pouvait se réaliser. Ce que je veux simplement dire pour faire court, c'est que l'idéologie sioniste, elle existe depuis donc très longtemps, même la fin du 19e siècle. Il se trouve qu'elle a rencontré un événement absolument tragique de l'histoire et que sans doute, sans le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette idéologie n'aurait pas été rendue, disons, réaliste et réalisable dans ces conditions. Hein. Et je dirais, pour continuer un peu mon idée entre la rencontre entre des idéologies et l'histoire, que l'idéologie du choc des civilisations dont on parlait à un instant, qui date en effet du début des années 90, existait, préexistait ou les attentats du 11 septembre 2001, mais était probablement voué à rester dans des tiroirs. Et il y a eu une sorte d'effet d'aubaine avec les attentats de septembre 2001 qui ont fait que cette idéologie minoritaire qui était condamnée à rester dans les tiroirs, d'un seul coup est devenue réaliste, praticable, réalisable. Et donc, des politiques s'en sont emparées. Ben, on peut un peu faire, d'une certaine façon, le parallèle, puisque finalement, le sionisme est une très ancienne idéologie, mais sans doute n'aurait-elle pas pu donner naissance à Israël, en tout cas dans les conditions où ça s'est fait, s'il n'y avait pas eu le génocide juif et en effet une culpabilité européenne en particulier, et une responsabilité d'ailleurs européenne dans ce génocide.
Chers auditeurs, vous voyez que c'est ça aussi le direct. Il y a parfois des petites surprises techniques, un petit bug technique avec...
Est-ce que la CIA
CD.
Serait pas sur le coup?
Déjà, on a déjà...
C'était un groupe palestinien.
C'était de la musique palestinienne qui, vous voyez, vient d'être censurée. Heureusement, le trio Joubran va prendre le relais.
assez beau, c'était le trio Joubran Massar. Le trio Joubran, c'est trois frères palestiniens qui jouent du oud à merveille et qui se baladent à travers le monde pour présenter Palestine autrement aussi que à travers ce qu'on en voit dans les médias.
Et ce qu'on en voit dans les médias est parfois un peu compliqué, puisque actuellement on entend beaucoup parler de relations extrêmement tendues, à la limite, vu d'ici, on est à la limite d'une guerre civile, avec un regard extérieur entre le Hamas et le Fatah. Peut-être qu'il faut revenir pour présenter rapidement ce que c'est que le Fatah et puis le Hamas. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel, Denis?
Bien sûr. Le Fatah, c'est l'organisation historique, disons, des Palestiniens. Il a été créé en 1959 par Yasser Arafat et quelques-uns de ses amis. C'est la première organisation vraiment nationaliste, c'est-à-dire qui se pose le problème de la création d'un État palestinien, ce qui s'est ensuite qui a été une des composantes importantes, majoritaires même, de l'Organisation de Libération de la Palestine. On a souvent dit l'OLP, quelquefois on confond OLP et Fatah. Bon, dans l'OLP, il y avait le Fatah comme courant dominant, et il y avait d'autres organisations plutôt laïques, plutôt marxisantes, hein, comme le Front Populaire de Libération de Palestine, etc.
Et aujourd'hui, juste entre parenthèses, parce qu'on a l'impression que le paysage politique palestinien se résume au Fatah et au Hamas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est des autres composantes de l'OLP?
Alors, malheureusement, cette impression est un peu justifiée. D'accord. C'est-à-dire que c'est quand même de très très loin les deux courants qui sont de très très majoritaires. On pourrait donner des explications d'ailleurs à la destruction, mais la perte d'influence. C'est pas seulement vrai en Palestine, mais c'est vrai dans tout le monde arabe. Les organisations laïques, enfin, j'hésite un peu à employer le mot parce qu'il n'a pas tout à fait le même sens là-bas qu'ici, mais enfin, disons, pour se comprendre, laïques, marxisantes, qui ont été réduites, qui ont été défaites aussi, mais par beaucoup la politique internationale, la politique américaine, ce qui fait qu'on a eu à la place, comme la nature hors du vide, on a eu à la place dans les oppositions une montée des mouvements plutôt religieux, hein, qui ont remplacé ces mouvements marxisants qui existaient et qui ont connu leur heure de gloire, notamment à l'époque de Nasser en Égypte, qui est mort en 70. Et toute la décennie, 60-70, a été une année de très forte pour ces mouvements dans tout le monde arabe, d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, ça c'est vrai, et en particulier depuis la révolution iranienne de 79, hein, il y a une montée des mouvements dits islamistes. Hein. Mais bon, c'est très compliqué parce que ces mouvements sont très composites, c'est-à-dire que ce sont des nébuleuses, souvent avec des courants à l'intérieur. C'est vrai aussi pour le Hamas, c'est vrai au Liban pour le Hezbollah, par exemple, également. Hein. Et ici, on a tendance toujours à essayer de les définir comme organisations religieuses, exclusivement. C'est très très réducteur, mais ce n'est pas sans arrière-pensée, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Si on veut suggérer qu'on a affaire à un choc des civilisations, il faut aussi répéter que l'un des protagonistes est un mouvement religieux et que nous avons donc affaire à des conflits d'ordre religieux. Or, on sait très bien que les conflits d'ordre religieux n'ont pas d'issue, parce que ça revient à demander à telle ou telle partie de renoncer à sa religion, de renoncer à ce qu'elle est finalement, et ça n'a pas d'issue. En revanche, si on place le débat sur le terrain du conflit colonial, je ne dis pas que la solution est facile à réaliser, mais elle est facile à concevoir, c'est la décolonisation, tout simplement. Donc là, soit on a une lecture politique, soit une lecture religieuse. Alors le Hamas, parce que je n'ai pas tout à fait répondu à la question...
Et comment est né le Hamas, justement?
D'où vient le Hamas? Le Hamas, au point de départ, est une branche, disons, de mouvement né en Égypte en 1928, qui s'appelle les Frères musulmans, qui constitue encore aujourd'hui une opposition, l'opposition probablement majoritaire en Égypte. Ce qui est un peu difficile à comprendre avec le Hamas, c'est que ce mouvement des frères religieux qui existe depuis très longtemps dans les territoires palestiniens était très minoritaire et surtout n'avait pas tellement d'apparition publique, au sens où leur théorie c'était que l'occupation n'était pas leur affaire, qui ne faisait pas de politique, en somme, et donc qui s'occupait beaucoup du culte, en fait, des mosquées, hein. Ils s'occupaient aussi du social, ils avaient des réseaux d'entraide, etc., etc. Ils étaient dans cette logique-là, c'était pas une logique politique. Et à partir de, disons, des années 70, en 73 en particulier, la figure de proue des frères musulmans en Palestine, Cheikh Yassin, a commencé à fédérer tous ces réseaux, s'appelle le Mujama, et après il y a eu une branche militaire qui s'est créée dans les années 80 aussi, c'est à partir uniquement de la première intifada, la révolte des pierres, en décembre 87, que le Hamas a été proclamé, c'est-à-dire que c'est, je dirais, l'émergence de cette branche des frères musulmans sur la scène politique, qui est un fait tout à fait nouveau à cette époque-là. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien, il s'est passé d'abord, je crois que ça a été reconnu par les autorités israéliennes, que Israël a vu plutôt d'un bon œil cette apparition, parce que ça divisait le camp palestinien. Donc bon, rien n'a été fait pour entraver cette émergence. Mais c'est pas ça la raison principale du développement du Hamas. La raison principale du développement du Hamas, c'est que la partie palestinienne qui a fait le pari de négocier avec Israël, Arafat, le Fatah, l'OLP, a essuyé énormément de rebuffades et d'humiliations. C'est-à-dire que à mesure qu'ils ont fait des concessions, ils n'ont pas eu en retour ce qu'ils attendaient. Et donc dans la population palestinienne, il y a eu une succession de très grosses déceptions, non seulement politiques, mais dans leur vie quotidienne, sur le fait qu'il n'y avait pas de négociation sur le statut final, que l'État palestinien ne venait pas, qu'on reconnaissait Israël, mais qu'en échange, il n'y avait pas eu de reconnaissance de l'État palestinien, etc. etc. Et donc il y a eu une montée, je dirais, en creux du Hamas. Je veux dire par là que les gens, les Palestiniens, n'ont pas adhéré au Hamas pour sa spécificité religieuse, mais plutôt en critique de l'échec de la politique de l'OLP et d'Arafat. Donc il y a eu des étapes successives qui ont conduit à la montée du Hamas jusqu'à ce mois de janvier 2006, où il y a eu des élections législatives, et où, un peu à la surprise générale, il faut le dire, à la surprise du Hamas également d'ailleurs, le Hamas a remporté ces élections, et là ça a changé la donne, le paysage politique palestinien a été transformé.
Donc il y a cette construction historique du Hamas qui ne vient pas de nulle part et qui a connu des étapes très concrètes. Est-ce que on peut peut-être prendre le temps de revenir sur une ou deux de ces étapes pour essayer de bien comprendre cette corrélation entre d'un côté le développement du Hamas et de l'autre les échecs politiques subis par le Fatah et la population palestinienne. Et, il me semble qu'il y en a au moins deux qui sont deux étapes principales. Il y a la question de la situation à Hébron en 94 et la mort de Rabin en 95, qui sont deux étapes un petit peu symboliques de cette idée.
Alors, les Palestiniens, comme peut-être nous tous d'ailleurs, ont cru dans leur majorité, je parle de la population, aux accords d'Oslo, ce qu'on a appelé les accords d'Oslo, vu qu'ils ont été signés à la Maison Blanche, c'est logique, en présence de Clinton. On se souvient de la fameuse poignée de main Arafat, Rabin, etc. C'était septembre 93. Donc il y a eu là une bouffée, disons, d'espoir. Ces espoirs ont été brisés très rapidement et effectivement, on peut dire grossièrement, il y a eu plusieurs étapes, mais il y a deux étapes très spectaculaires où les Palestiniens ont pu croire, et les Israéliens aussi d'ailleurs, dans la population israélienne, qu'on allait accélérer le processus de paix, qu'on allait aller vers la reconnaissance d'un statut final de Palestine, etc. Ces deux étapes, c'est d'une part, ce sont des étapes tragiques chaque fois, c'est d'une part le massacre de musulmans en prière à Hébron, en février 1994, il y a eu 29 morts. C'est un extrémiste juif, Baruch Goldstein, qui a tiré au fusil mitrailleur sur les fidèles qui étaient là. Alors, c'est pas tant le massacre en lui-même, parce que malheureusement, il y en a eu quelques-uns dans cette l'histoire de ce conflit, que ce qui s'est passé le lendemain et le surlendemain. C'est que tout le monde, en Palestine et en Israël d'ailleurs, pensait que, après cet événement, Yitzhak Rabin, qui était Premier ministre, qui avait signé les accords d'Oslo quelques mois auparavant, septembre 93, février 94, c'est tout frais, avec cet événement, allait pouvoir hâter le pas, disons, et démanteler par exemple la colonie de Hébron, puisque c'est à Hébron que c'est passé, peut-être, et démanteler un certain nombre de colonies.
peut-être pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'Hébron a une particularité, c'est que c'est une très grande ville palestinienne avec une colonie israélienne au cœur de la ville, dans le centre historique de la ville, qui rend de ce fait qui entraîne une présence militaire permanente et qui rend la vie encore quelque part plus impossible que dans les autres villes palestiniennes.
Voilà, c'est un véritable abcès, disons, dans cette ville, on peut le dire comme ça. C'est avec une colonie qui est particulièrement, comme elle est très très minoritaire, très agressive. Et donc qui génère énormément de conflits. Donc on a pu croire à ce moment-là qu'il y avait une fenêtre pour la paix après cet événement. Et au lieu de ça, et là je disais que ce n'est pas en tant que tel le massacre, mais ce qui s'est passé les jours suivants, quand il y a eu des manifestations de protestation contre le massacre, elles ont été très durement réprimées par l'armée de Rabin, en fait, et il y a eu de nombreux morts palestiniens. Et là, on a une énorme, retombée de l'illusion d'Oslo. Et c'est d'ailleurs quelques semaines plus tard qu'on voit apparaître le premier attentat suicide. Ça, c'est très important aussi parce que dans le discours médiatique dominant, on cherche toujours à nous faire croire. C'est toujours cette volonté de transposer sur un terrain religieux un conflit colonial que l'attentat suicide, ce serait quelque chose qui serait inhérent à la culture musulmane. Non, c'est un fait extrêmement nouveau, récent, et qui est accroché à un événement de l'histoire très précis, qui est cette déception de février 94, on voit apparaître le premier attentat suicide. La deuxième date importante, mais bon, c'est un peu arbitraire, mais il y en a une autre très importante, une deuxième grande fenêtre pour la paix, c'est évidemment l'assassinat de Rabin par un extrémiste juif, là encore une fois, en novembre 95, et à ce moment-là, effectivement, tout le monde et les sondages d'opinion en Israël, etc., pensent que on va hâter le processus de paix, aller vers une définition du statut final, etc., etc. D'autant plus que le successeur de Rabin, c'est Shimon Peres, qui a été prix Nobel de la paix en même temps qu'Arafat en 93, etc., etc. Et on pense que là, tous les ingrédients sont réunis. Et au lieu de ça, il se passe quelque chose apparemment incompréhensible, c'est que en janvier 96. Pérez choisit de pratiquer ce que dans le langage feutré on appelle une exécution extrajudiciaire, c'est-à-dire un assassinat en fait ciblé d'un dirigeant du Hamas, rouvrant, disons, de nouveau le conflit. Il y a eu une succession après ça en février-mars 96, donc une succession d'attentats très meurtriers du Hamas. Le conflit de nouveau s'est envenimé. Il y a eu ensuite une guerre du Liban. Israël a attaqué le sud Liban, etc. Nous sommes là en 96. Tout ça s'est terminé en juin par la victoire de l'aile la plus droitière du paysage politique israélien, et donc un retour en arrière terrible, dramatique, disons, du processus. Donc on voit que... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour venir répondre très très brièvement et directement à la question ? Eh bien, chaque fois qu'il y a eu ces énormes déceptions, qu'il y a eu le sentiment qu'il y avait eu des concessions faites par les Palestiniens, qu'elles n'étaient pas payées en retour, chaque fois, il y a eu une montée du Hamas. C'est-à-dire que le Hamas, il monte, c'est un peu les vases communicants, il monte pas pour des raisons religieuses, mais parce que il cristallise, il attire à lui, disons, toute la déception, la désillusion de la population palestinienne.
Je voulais juste... parce qu'en fait, le porte-parole du Fatah, c'était bien Yasser Arafat. Et il avait quand même une image assez, assez très importante quand même dans le monde. Est-ce que c'était le cas quand même, malgré tout ça, c'était un peu lui le leader palestinien incarné, quoi, très charismatique.
Oui. Bah, c'est d'ailleurs de son vivant, le Hamas n'a pas été majoritaire. C'est-à-dire que je pense qu'il a toujours eu le souci, comme c'était le leader historique, le fondateur du Fatah, le président de l'Organisation de Libération de Palestine, le président de la première autorité palestinienne. C'était, comment dire, une sorte de Gaulle palestinien, quoi, disons, ouais, pour ça. Parler, pour employer une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Il a toujours eu le souci de cimenter, disons, d'assurer, disons, l'unité de son peuple. Il n'a jamais voulu tomber dans le piège d'un affrontement contre le Hamas. Il y a eu des frictions, etc. Mais il a jamais voulu... il a toujours assuré quand même l'unité de son peuple, parce qu'il y avait des incitations fortes, déjà de la part d'Israël et des États-Unis, à ce que l'autorité palestinienne engage des hostilités contre le Hamas, déjà sous Arafat. Il a jamais accepté ça. Et donc, il a préservé l'unité de son peuple. quand il est mort,
son
successeur, disons affaibli, il faut le dire aussi, n'ayant pas non plus son charisme, n'ayant pas son prestige, etc., a, on peut le dire, probablement un peu franchi le pas, franchi la ligne jaune, et allé dans des conditions que je peux expliquer, mais dans un affrontement avec le Hamas. Et je pense que le souhait, disons, de ceux qui en Israël ne veulent pas la paix, en tout cas, c'est d'essayer de favoriser les conditions d'une guerre civile interpalestinienne. Et malheureusement, il y a des signes très fort des gens déjà de cette ce risque.
Et là effectivement les élections de 2006 avec cette victoire démocratique du Hamas a été suivie je dirais d'un engrenage extrêmement rapide de violence entre ces deux entités que sont le Hamas avec Mahmoud Abbas qui était le président lui aussi élu, mais qui avait été élu avant, et le Hamas qui venait de remporter les élections législatives, et qui, un engrenage qui arrive à la confusion dans laquelle on est, dans les relations entre les deux, quoi.
Alors ce qui s'est produit, c'est en fait, toujours pour faire une comparaison avec les situations françaises qui ne sont plus familières, on a eu une sorte de cohabitation avec la victoire aux législatives de janvier 2006, du Hamas. On a eu une sorte de cohabitation avec un président, Mahmoud Abbas, de tendance Fatah, héritier direct d'Arafat, et une législative gagnée par le Hamas. Et officiellement, tout le monde a reconnu l'élection. Tout le monde a dit ça s'est passé de façon absolument irréprochable. Ce qui, d'ailleurs, est très très rare dans le monde arabe, faut dire ce qui est. C'est-à-dire qu'on a eu des élections démocratiques, très serrées, et sans l'ombre d'une contestation sur l'ombre d'un bureau de vote. Ça prouve que, disons, ces Palestiniens ont une maturité politique qui ne se retrouve pas forcément toujours dans le monde arabe, y compris dans des pays du Maghreb qui nous sont beaucoup plus proches historiquement et géographiquement. Donc il y a cette sorte de cohabitation. Et dans cette cohabitation, tout le monde reconnaît formellement, par le verbe, etc., la victoire du Hamas. Tout le monde dit que ça s'est passé légalement, etc., mais en fait, politiquement, culturellement, on ne la reconnaît pas. Et on ne la reconnaît pas, ça se concrétise de la façon suivante. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne, normalement, comme dans une situation de cohabitation à la française, doit céder, disons, les ministères, la gestion des ministères au parti qui a gagné les élections, en particulier le ministère de l'Intérieur. C'est pour ça qu'il y a eu des affrontements entre des groupes sécuritaires, comme on dit. Par exemple, la police palestinienne. Imaginez un peu que, Mitterrand et Chirac, entre 86 et 88, pour parler d'une période de cohabitation, Mitterrand, président de la République, perd les législatives, Chirac devient Premier ministre. Donc forcément, il nomme un ministre de l'Intérieur qui va être responsable de la police. Mais Mitterrand dit non, ça je suis pas d'accord, la police c'est moi directement. Et il lui retire sa victoire. Hein. C'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'on a dit non, la police palestinienne, non, finalement, on peut pas la confier au Hamas. Ça reste, restitué à l'autorité palestinienne. Le Hamas a contesté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé leur propre police parallèle en somme, qu'on appelle la force exécutive, et il y a eu les premiers affrontements, en particulier à Gaza, entre les uns et les autres. Donc on voit bien que tout ça vient d'une non-reconnaissance de fait, même si le discours a été contraire, d'une non-reconnaissance de fait de la totalité de l'élection palestinienne de janvier.
Ça c'est fou, 2006. C'est oui, vous avez voté, on vous laisse voter pour qui vous voulez. Par contre, si vous votez pour eux, on peut pas appliquer, hein, c'est pas possible.
Voilà. En gros, ce qui s'est passé, ce qu'il faut dire, c'est que Mahmoud Abbas a agi beaucoup sous la pression, évidemment, d'Israël et des États-Unis qui sont beaucoup battus pour qu'il agisse dans ce sens-là. Hein.
Et effectivement, ce sera la question qu'on va se poser juste après la pause musicale, hein, sur les enjeux internationaux et la place de la France, des États-Unis et des pays arabes par rapport à ce conflit. Musique. Ah, vous voyez, ça, je confirme, nous sommes bien en direct. Il y a une platine qui visiblement a été payée par la CIA, c'est plus grave qu'on ne le pensait. C'est la compagnie Joli Môme que vous allez
c'est
pouvoir
un véritable complot.
Entendre. Hein. Vous avez déjà entendu dans des émissions précédentes des chansons de la compagnie Joli Môme. Une très belle chanson sur la Palestine. Sur Dissidence, animée cette semaine par les Alternatifs, sur la question de la situation en Palestine avec Denis Sifer de Politis. C'était Si loin, si proche de la compagnie Joli Môme, écrite en 2005 à l'occasion de la journée internationale de soutien aux prisonniers palestiniens, hein, qui se déroulait en duplex entre Saint-Denis et Ramallah. Très belle chanson. Qui nous ramène à la situation actuelle et à la question des enjeux internationaux qui se posent autour de cette situation en Palestine et en particulier face à ce qu'on, tout ce que l'on vient de décrire et la situation un petit peu, on va dire, infernale où on en est à l'heure actuelle. Une des questions qui se posent, c'est quid justement de ces processus de paix, puisqu'on a évoqué Oslo et les déceptions que ça avait entraînées. Où en est-on justement par rapport à ça, hein? On en a entendu à parler à l'automne. Qu'en est-il? Il me semble que ça n'a pas beaucoup avancé, mais je me trompe peut-être.
Bah, oui et non, c'est-à-dire que c'est un processus, je dirais, presque parallèle à la réalité. Il y a la réalité de son côté, sur le terrain, et puis il y a ce processus qui est un processus politique, initié par les États-Unis, par George Bush, qui en a besoin pour la fin de son mandat par rapport à l'échec de l'Irak, par rapport à l'échec de l'Afghanistan, par rapport aux multiples échecs essuyés par les États-Unis pendant son mandat au Proche et au Moyen-Orient. Donc il aurait besoin de quelque chose, une victoire symbolique sur la question palestinienne. En novembre dernier, il a convoqué, en claquant dans ses doigts, à peu près tous les diplomates du monde entier, également des capitales arabes, ainsi que Ehud Olmert, le premier ministre israélien.
Il claque vachement fort dans ses doigts.
Il claque très fort dans ses doigts, et surtout tous ces gens-là sont extrêmement disciplinés quand c'est lui qui claque dans ses doigts. Et donc à Annapolis, petite ville du Maryland, il y a eu cette conférence. Et l'issue de cette conférence, c'est il doit y avoir un État palestinien avant la fin de 2008, c'est-à-dire au moment où Bush va rendre les clés de la Maison Blanche. Ça paraît absolument fou vu la situation sur le terrain. Mais il faut quand même traiter cette question avec certains sérieux. Vous allez voir comment ça rejoint tout ce qu'on a dit déjà maintenant. C'est-à-dire que sur le terrain, depuis le mois de juin dernier, les affrontements dont je parlais tout à l'heure entre le Fatah et le Hamas ont abouti à une rupture totale à Gaza. C'est-à-dire qu'à Gaza, le Hamas a infligé une sorte de défaite militaire au Fatah. Et alors les uns parlent de putsch. Je pense que c'est beaucoup plus un engrenage de violence qui a conduit à ça. Et donc il y a deux attitudes possibles par rapport à ça. Il y a ceux qui, comme moi, mais malheureusement très 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 minoritaire parmi les diplomaties internationales, pensent qu'il faut discuter avec le Hamas, que le Hamas c'est une nébuleuse, qu'il y a des extrémistes au Hamas, mais qu'il y a aussi des politiques, etc., etc., et que de toute façon ils ont été élus, et que c'est une composante très forte du paysage palestinien, et qu'il faut faire avec, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et puis il y a ceux, comme Israël, comme les États-Unis, et malheureusement un peu aussi comme Mahmoud Abbas, dans des conditions différentes, et son rôle est quand même très très difficile, il faut le reconnaître, disent on discutera pas avec le Hamas, on discutera jamais avec le Hamas, etc. C'est une espèce d'anathème, pour employer un terme religieux, à l'encontre du Hamas. Ça, c'est la stratégie, disons, de l'affrontement. Dans cette stratégie de l'affrontement, on peut très bien imaginer, en effet, qu'il y ait un processus de paix qui se mène parallèlement et qui permette à l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, etc., d'avoir une sorte d'État palestinien qui viendrait après un affrontement, par exemple, d'Israël avec le Hamas à Gaza et l'écrasement du Hamas, et qu'on aurait un État palestinien, là, vraiment, totalement aux conditions d'Israël et des États-Unis, c'est-à-dire des lopins de terre encerclés de colonies, etc., qu'on appellerait État palestinien. C'est pas du tout exclu, parce que quand on dit paix ou processus de paix, on ne dit rien sur les contours des frontières, sur la géographie de cet État palestinien, sur son statut, etc. On peut très bien appeler État palestinien quelques villes encerclées par des colonies, etc. Donc c'est pas totalement irréaliste. Le problème, c'est que Mahmoud Abbas, visiblement, a fait le choix de cette stratégie avec les États-Unis et Israël. Donc c'est une stratégie d'affrontement contre le Hamas. Cet affrontement, il peut être extrêmement coûteux en vie humaine. Et actuellement, il y a des menaces très fortes qui pèsent sur la possibilité d'une offensive terrestre d'Israël sur Gaza, c'est-à-dire pour liquider complètement le Hamas. Et le problème, c'est que qu'est-ce que pourrait espérer en retour Mahmoud Abbas? Il pourrait espérer au moins qu'il y ait une décolonisation en Cisjordanie. C'est-à-dire que les colonies juives de Cisjordanie soient démantelées. Or, au lieu de cela, ce qui se passe, c'est que le gouvernement israélien continue de coloniser, il y a des programmes de colonisation, et qui ne sont absolument pas annulés ni remis en cause. Autrement dit, Mahmoud Abbas va dans une logique d'affrontement avec une partie de son peuple, et une des composantes politiques du paysage palestinien. Et en retour, il a rien. Il n'a pas du tout l'assurance qu'il y aura une décolonisation en Cisjordanie, que l'État palestinien dont il hériterait en bout de course, ce serait autre chose que quelques, disons, bantoustans, parce qu'on emploie souvent cette formule en référence à l'Afrique du Sud. Et malheureusement, c'est un peu ce marché de dupes dans lequel il est engagé. Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a un peu deux processus parallèles. Il y a ce processus politique très artificiel dans lequel, semble-t-il, Mahmoud Abbas est engagé avec les États-Unis et Israël, et qui fait qu'il reçoit une aide importante des États-Unis, par exemple, pour ça. Et puis sur le terrain, non seulement à Gaza, bon, d'abord une situation sociale et humaine absolument épouvantable, avec la limite, disons, de la survie sanitaire, et même en Cisjordanie, la poursuite de la colonisation juive en Cisjordanie. Donc vraiment, le terrain contredit complètement, disons, les proclamations d'Annapolis, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'arrivera pas à quelque chose qui s'appellera la paix d'Annapolis et qui dupera complètement, pour finir, les Palestiniens et leur donnera, on emploiera en plus le mot généreux et tout ça, une sorte d'État palestinien à minima autour de quelques villes. Voilà ce qui, à mon avis, la stratégie israélo-américaine, aller sur ces deux terrains totalement contradictoires, mais qui passent par des affrontements très violents qu'on peut craindre, puisque finalement l'intensification des raids israéliens ces jours derniers sur Gaza semble en effet préparer peut-être une offensive terrestre. Alors comme on dit toujours, c'est toujours en représailles, on revient au mot de début, en représailles aux tirs de roquettes des Palestiniens depuis Gaza sur la ville israélienne de Sderot qui est toute proche. Mais on ne nous fera pas croire, disons, que ces roquettes sont la cause du conflit. La cause du conflit, c'est évidemment la colonisation et l'étouffement, l'asphyxie économique. On aurait permis à Gaza d'avoir un port, d'avoir un aéroport, de pouvoir déboucher sur l'Égypte, etc. etc. Il n'y aurait pas de tir de roquettes. Les tirs de roquettes sont une conséquence, ils ne sont pas une cause.
Tout à fait. Et il me semble que la question qui se pose à nous en tant que citoyens français par rapport à cette situation, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire. Il est malheureusement déjà un peu tard. On va pas pouvoir aborder tous les enjeux et approfondir toutes les questions de ce sujet. Heureusement, il existe Politis, où on peut lire régulièrement, où on peut lire, c'est mes publicités parce qu'elle est réelle, parce que c'est un des seuls lieux où on peut lire des analyses et des réflexions qui vont au-delà de ce que peut nous seriner une partie des Bernard Guetta et compagnie, avec toujours les mêmes stéréotypes. Et heureusement qu'il existe des revues comme Politis.
Notre démonstratrice vous signale que Politis est disponible en kiosque. Vous pouvez aussi vous abonner ou consulter politis.fr sur le web.
Tout à fait. Heureusement, il existe aussi des associations. Je vous signale l'existence notamment de l'association France-Palestine Solidarité sur Rouen, que vous pouvez...
Et partout
en France, mais qui existe notamment sur Rouen. Et parmi les actions qui sont prévues, puisque on se pose...
Juste avant que tu poursuives, Benoît, comment contacte-t-on la FPS?
Comment contacte-t-on la FPS? Ben, on peut leur téléphoner au 06 30 07 97 75. Et ils vous donneront toutes les informations que vous recherchez. Déjà s'informer de la situation en Palestine, c'est déjà faire quelque chose. Essayer de comprendre les enjeux, c'est déjà faire avancer sa propre réflexion et pouvoir ensuite en discuter autour de soi et faire évoluer l'opinion publique. C'est tous ces grains de sable additionnés qui peuvent faire quelque chose. Donc ça, c'est s'informer, lire, etc. Mais c'est aussi essayer d'agir plus concrètement. Au mois de mai, est organisé un très grand rassemblement à Paris
le 17 mai.
Le 17 mai, les 6 heures pour la Palestine, je crois, puisque vous savez qu'on est en 2008, que ce sera les 60 ans d'un côté de la création d'Israël et de l'autre de la catastrophe, ce qu'on appelle la Nakba chez les Palestiniens, puisque la création de, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, mais la création d'Israël s'est accompagnée d'une très grande grande violence, hein. Ilan Pappé, qui est un des historiens israéliens, vient de sortir un livre justement autour de qui a pour titre l'épuration ethnique en 48. Et donc c'est à l'occasion de ces 60 ans de cette catastrophe, hein, qu'aura lieu au mois de mai cette grande initiative.
Donc,
beaucoup
grand,
de Rouennais essaieront d'y aller.
Village associatif à Paris.
À Paris. Et donc, on aura l'occasion de le réévoquer la prochaine fois. Je vous signale que la prochaine émission est animée par Judy et Alain, il me semble, hein, sur la question de la citoyenneté et de l'Europe. Voilà, nous, l'équipe des Alternatives, on se retrouve dans un mois.
Oui.
Le 31 mars, hein, autour d'un thème qui nous est cher, c'est-à-dire la question du nucléaire. On aura sans doute l'occasion de reparler de la situation en Palestine, malheureusement. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'émission, il y a bientôt un site qui va exister. Là, je fais un appel à Jonathan pour voir où on en est.
Voilà.
Vous pouvez aussi sans doute trouver des informations sur le site
de
des Alternatifs.
Des Alternatifs, sur le site des Alternatifs et aussi sur le site de la radio HDR.
Et tout à fait. Et on remercie du fond du cœur Denis Siffert d'être venu éclairer nos lanternes parce que c'était très intéressant. Chers auditeurs, à bientôt.
Et merci à Malik de nous avoir accompagnés.
Voilà,
boujou.
مين إرهابي؟ أنا إرهابي؟ كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي؟ مكلني وأنا عايش ببلادي؟ قتلني زي ما قتلت أجدادي؟ أجل القانون على الفاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية والله إنكم نسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا إرهابية يعني ضربني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك إنك بديت نطيت وحكيت ما أنتوا بتخلوا ولاد صغار المحجار ما لهمش أهل يدبوهم بالدار إيش كنو نسيت إنه استحق ضب الأهل تحت الأشجار وهلا لما وجع الفار بتناديني إرهابي مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش في بلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمه بشد ورا همه بيكون زلمه تعملوا منه رمه ومين انتو لسه امتى خبرتوا اطلعوا قديش قتلتوا قديش شتمتوا امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقول مين انتو؟ انتو كبرتو بدلا احنا كبرنا فقر مين كبر فوسع ومين كبر فجحر صار في داعي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي
مين ارهابي؟ انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي؟ لما تضربني كف واعطيك خدي تاني كيف تتوقع مني اشكر لاذاني تعرف ايش انت ولي كيف دخياني راكع ركبي وايدي مربطات ايوه